France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Anouk Millot, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Loïc Antoine. À la réalisation, c'est Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, Marie-Claire Oumabadi. Cette semaine, Culture Monde s'intéresse aux demandes de réparation exprimées par les pays anciennement colonisés. Nous avons parlé toute cette semaine de l'Algérie, de la Namibie et du Niger, qui somment les anciennes puissances coloniales françaises et allemandes de reconnaître les crimes commis dans le passé. Dernier épisode ce matin, nous sommes du côté des pays de la Caraïbe qui demandent des comptes au Royaume-Uni sur la traite et l'esclavage.
The British Empire owned its existence.
L'Empire britannique doit son existence et une grande partie de sa richesse aux Caraïbes anglophones. Il faut que les Britanniques procèdent rapidement à une introspection afin que nous puissions commencer à aborder correctement cette période sombre de nos histoires respectives.
La communauté caribéenne se joint au mouvement grandissant pour demander la proclamation immédiate d'une deuxième décennie afin d'achever le travail encore incomplet autour de la question des réparations de l'esclavage et du colonialisme.
Nous ne demandons pas l'aumône. Nous disons simplement que vous avez récolté les fruits pendant 500 ans ou plus. Vous avez volé, vous avez profité. Et maintenant, nous voulons récupérer ce que nous méritons.
C'est au début des années 2000 que le ton a commencé à changer. Car il ne s'agit pas de réclamer l'aumône, comme le disait la poétesse jamaïcaine Opal Palmer a dit ça. Il s'agit de regarder l'histoire en face et de reconnaître les souffrances. Il s'agit d'établir les responsabilités et de demander justice. Si les États et les habitants de la Caraïbe ont toujours su quelle était leur histoire, comment leurs ancêtres furent déportés par millions depuis l'Afrique, esclavagisés dans les plantations, si l'idée de réparation n'est pas nouvelle non plus, la mobilisation collective et transnationale commence à prendre forme. En 2014, la communauté caribéenne, la CARICOM, publiait un plan en 10 points demandant réparation aux pays européens pour l'esclavage et la traite transatlantique. Y figurent notamment des excuses complètes et officielles, ainsi que la création d'institutions culturelles pour reconnaître et diffuser cette histoire commune. Mais le symbolique ne suffit pas. Depuis plusieurs années, ce sont des demandes d'indemnisation financière qui sont formulées. En 2023, le chiffre de 18,5 milliards de livres sterling était évoqué lors du sommet du Commonwealth, soit 21,5 milliards d'euros au titre des réparations dues par le Royaume-Uni pour 14 pays de la Caraïbe. Ce à quoi le monarque Charles III et le gouvernement Starmer se sont d'ores et déjà opposés. Alors quel espoir pour les pays de la Caraïbe de voir leurs revendications pour une justice réparatrice aboutir? On en discute avec nos invités. Maboula Soumaoro, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Et bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université François Rabelais à Tours. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ». C'est paru aux éditions La Découverte en 2020. Et notre seconde invitée est avec nous depuis l'Angleterre. Bonjour Fabienne Viala.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université de Warwick, spécialiste en études caribéennes. Vous êtes l'autrice, vous, de The Post-Columbus Syndrome, Identities, Cultural Nationalism and Commemoration in the Caribbean. Pardon pour l'accent. C'est paru aux éditions Palgrave Macmillan en 2014. Alors je voudrais, avec toutes les deux, qu'on commence par rappeler ce fait historique qui est peut-être pas très connu, c'est que quand on parle de réparation, eh bien au XIXe siècle, ce mot existait déjà après l'abolition de l'esclavage en 1838, Fabienne Viala, mais ce sont les anciens esclavagistes et les anciens propriétaires qui sont à ce moment-là destinataires de ces dédommagements. À quel titre ?
Alors, oui, c'est en 1833, plus précisément, quand l'abolition est déclarée. L'État anglais doit trouver 20 millions de livres pour indemniser les propriétaires d'esclaves de tout l'espace caribéen. C'est une indemnisation qui part du principe qu'un système économique se termine et qu'il faut indemniser ceux qui vont perdre leurs moyens de subsistance dans les plantations, et surtout les aider à financer une transition, puisque après l'abolition de l'esclavage, la traite a été abolie en 1807, mais l'esclavage en lui-même en 1833, ça ne veut pas dire que les plantations disparaissent. Donc il va falloir trouver un autre mode d'exploitation des plantations, notamment indentureship, c'est-à-dire c'est une manière en fait de salarier, mais alors tout est très relatif, c'est-à-dire à des coûts moindres, les personnes qui vont travailler sur la plantation. Donc on sort de l'esclavage et il faut passer d'un système à l'autre. Ces 20 millions de livres sterling, c'est énorme à l'époque. L'État anglais a contracté un prêt pour pouvoir les payer. Et c'est seulement en 2015 que les contribuables britanniques ont fini de rembourser les intérêts de ce prêt. Et dans les contribuables britanniques, vous entendez bien qu'il y a des personnes de tous héritages, notamment des personnes d'héritage caribéen, jamaïcain, barbadien, antiguayen, qui ont donc, on est dans quelque chose de complètement absurde et scandaleux, où les propres descendants des personnes qui étaient mises en esclavage ont contribué à rembourser ou à indemniser la perte financière de ceux qui les avaient mis en esclavage. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à entendre quand on parle de réparation.
Des remboursements qui ont lieu jusqu'en 2015. Comment expliquer, Maboula Soumaoro, que personne avant 2015 n'ait mis fin à ce système, qu'il n'y ait pas eu de débat, que l'État ne se soit pas dit on arrête ce remboursement? C'est peut-être une question naïve, mais comment expliquer que ça a duré jusqu'en 2015?
Alors qu'il n'y ait pas eu de débat, j'en ne suis pas certaine, mais en tout cas toutes ces revendications et tous ces débats, s'ils ont eu lieu, n'ont absolument pas été pris en compte par les instances dirigeantes et par le Royaume-Uni dans ce cas précis, parce que c'était une question qui n'a pas atteint les plus hauts sommets, on va dire, de l'État. Et c'est une façon particulière de regarder ce passé, de traiter ce passé et de traiter l'importance économique en premier lieu et l'importance historique, politique de ce qu'ont été et la traite des esclaves, des personnes réduites en esclavage, et l'institution de l'esclavage. Et ça, c'est une question, là on parle de la Grande-Bretagne, mais elle s'applique à toutes les autres nations impliquées dans cette histoire et qui inclut la France notamment.
Et cette idée d'indemniser les anciens esclavagistes à l'époque, c'est une évidence ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Parce que les sommes, le rappelait Fabienne Viala, sont énormes. Le Royaume-Uni doit s'endetter. Mm-hmm. Donc voilà, comment la question se pose à ce moment-là?
Oui, je pense qu'à l'époque, c'est une évidence. Et c'est très intéressant de retracer les racines de cette question des réparations à l'époque même des abolitions de l'institution de l'esclavage. Parce qu'à ce moment-là, où on parle du 19e siècle, il n'y avait aucun doute quant aux conséquences économiques de cette institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être depuis 2026, on pourrait se dire que l'esclavage, c'est une question seulement, je ne sais pas, de violence, une question sociale, une question peut-être même culturelle. Mais il n'y avait aucun doute au 19e siècle sur la dimension purement économique de cette institution. Donc il était évident, et Fabienne vient de nous le rappeler, que à l'arrêt de cette institution, des indemnités, des compensations et d'ordre financier devaient être versés aux propriétaires, aux anciens propriétaires de personnes réduites en esclavage. Il n'y avait aucun doute à ce moment-là. Le doute, je pense qu'il est apparu plus tard et il apparaît grandement aujourd'hui, où on va verser immédiatement dans la symbolique le crime irréparable, alors que les conséquences financières, elles étaient vraiment de fait et elles étaient posées à toutes les abolitions de l'esclavage. Donc le Royaume-Uni a indemnisé, la France a indemnisé, les États-Unis ont indemnisé, mais à chaque fois, les propriétaires d'esclaves.
Fabienne Viala, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, plusieurs pays de la Caraïbe demandent des indemnités financières, et donc pas seulement des reconnaissances morales ou symboliques, mais des indemnités financières au titre de réparation de l'esclavagisme et de la colonisation, eh bien, est-ce que c'est une réponse, une résonance historique au fait qu'au XIXe siècle, les États avaient payé?
Oui, bien sûr, absolument. C'est-à-dire qu'on est face... Enfin, pour, véritablement, vous demandiez pourquoi en 2015, on parle de ces réparations aux propriétaires. C'est vraiment grâce à la charte en 10 points de 2014 de la CARICOM qui met sur la table la réalité de la profitabilité du système esclavagiste. Et la charte en 10 points, qui est très complète, en fait, elle mélange des réparations d'ordre symbolique, d'ordre épistémologique et d'ordre clairement matériel et financier. C'est véritablement une prise en compte rétrospective du fait qu'il faut absolument que les dommages qui ont été causés et qui continuent en fait à endetter les pays de la Caraïbe et doivent être compensés dès maintenant. Donc il y a véritablement besoin, ça ne peut pas ne pas être financier. Quand on pense aux sommes colossales, quand on pense que le système bancaire anglais a été exclusivement financé par l'argent des différentes traites négrières, il faut quand même mettre les choses dans leur réalité, en fait, parler des faits. Donc il y a une vraie volonté de regarder l'indemnisation financière comme quelque chose qui va venir nourrir des mécanismes restauratifs, soit pour financer des institutions, soit pour financer des programmes de santé publique, des programmes de réparation psychologique, des bourses universitaires, en plus, bien sûr, de l'annulation de la dette. Vous savez que les pays de la Caraïbe payent une dette colossale. Et en plus des excuses formelles qui, jusqu'à ce jour, ont été seulement formulées du bout des doigts avec une tasse de thé entre quatre murs, mais jamais de manière publique.
Il y a eu plusieurs tentatives pour chiffrer ces réparations financières. J'évoquais le chiffre de 18,5 milliards de livres sterling qui a été évoqué en 2023 lors du sommet du Commonwealth. Est-ce que d'autres chiffres circulent à votre connaissance? Et surtout, comment s'établit ce travail de chiffrage quand on est sur de telles sommes, hein, 18,5 milliards de livres sterling, c'est 21,5 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on procède à des calculs? Et puis, est-ce qu'on peut chiffrer ce qu'a représenté plusieurs centaines d'années de souffrance par ailleurs, Maboula Soumaoro?
Alors, je ne pourrais pas m'avancer précisément sur la question du chiffrage, mais je sais que plusieurs montants circulent. Là, on parle du CARICOM. On pourrait aussi mentionner le mouvement MIR, le mouvement international pour les réparations, qui précède le CARICOM, donc qui couvre le monde anglophone. Mais depuis 2005, cette association basée en Martinique et qui ensuite, depuis 2017, a aussi émergé en Guadeloupe, a poser la question de la réparation, des réparations notamment financières, depuis 2005 à la Martinique et, comme je l'ai dit, à la Guadeloupe. On sait que le travail des historiens a aussi porté sur les conséquences économiques de cette traite. Je repense à l'historien Eric Williams de Trinidad et Tobago qui, dans les années 40, a publié « Capitalisme et esclavage », qui est maintenant un ouvrage traduit en français depuis quelques années et qui a essayé de mesurer les conséquences économiques de cette, que ce soit de la traite négrière et de l'institution de l'esclavage. Est-ce que ces deux institutions ont représenté pour l'économie globale, on va dire occidentale? Comment les liens entre l'accumulation de capital et le développement de ces nations occidentales qui ont été investies dans ces projets coloniaux dans les Amériques ou ailleurs ont, comment dire, ont pesé, ont modelé l'avenir économique de et le mauvais avenir économique des territoires qui ont été colonisés. Je pense également à quelqu'un comme Walter Rodney du Guyana qui a parlé du sous-développement de l'Afrique. Donc voilà, ce sont des personnes, et je pense aussi à des historiens des États-Unis, qui ont essayé de chiffrer, de regarder économiquement les gains accumulés et comment ces gains pourrait être traduit dans les économies contemporaines. La question d'Haïti que vous allez traiter tout à l'heure est aussi importante. Depuis la dette contractée au 19e siècle comme réparation pour la défaite française sur l'île qui s'appelait Saint-Domingue à l'époque, a été également chiffrée. Donc vraiment, ces réflexions et ces recherches menées sur le poids économique, sur le montant financier qui pourrait être versé, ne constitue pas une question nouvelle. C'est vraiment étudié depuis longtemps. Et comme l'a rappelé Fabienne Viala, il y a aussi pas uniquement un intérêt pour la question économique. Il y a aussi la question de la réparation symbolique, morale, éducative, psychologique, culturelle. Enfin, voilà, quand on parle du CARICOM en particulier, il y a cette notion de réconciliation, mais une réconciliation conditionnée. C'est-à-dire que la réconciliation ne peut se faire que sur la base de la vérité, que sur la base de la justice et sur la base de la réparation. Voilà, et qui couvre au-delà, qui va au-delà, pardon, de la question économique purement.
Et donc cette réparation, si je comprends bien, ce chiffre, il recouvre une double réalité, c'est-à-dire à la fois dédommager les préjudices subis par les personnes et leurs descendants, et en plus agir sur une inégalité structurelle économique qui s'est mise en place. Exactement. Du fait de la domination. Fabienne Viala, sur ce point.
Oui, absolument. Moi, je pensais au travail d'un de mes collègues à UCL, Steve Cushen. Et quand on regarde, il a publié un petit. Alors, c'est plus facile à circuler qu'un ouvrage. C'est peut-être c'est dans le format presque d'un fanzine. Et c'est pour permettre de combler les ignorances. Le chiffrage se fait. C'est très complexe, mais il faut d'abord commencer par regarder ce que les propriétaires d'esclaves auraient normalement dû payer aux personnes mises en esclavage s'ils avaient été des travailleurs de la terre, c'est-à-dire s'il y avait déjà à l'époque. Et ensuite, il faut additionner à ça et de manière très complexe l'impossibilité des personnes mises en esclavage au moment des abolitions d'avoir un capital de départ, c'est-à-dire que comme on interdit à ces personnes d'avoir une éducation, de lire, d'écrire, et qu'on les réduit à des activités vraiment de labour. Et c'est très difficile, même si on vous dit, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement au moment de s'installer, d'avoir une famille, une maison, un travail, etc. Le droit à la famille était aussi quelque chose qui était volé par les propriétaires d'esclaves. Vous savez que les bébés dans l'utérus de leur maman appartenaient aux propriétaires d'esclaves et pas à la maman. Donc c'est une dimension énorme. Donc, les dommages causés sont très difficiles à chiffrer, mais il faut quand même reconnaître que l'indemnisation financière n'est pas suffisante, mais elle doit faire partie de ce débat, puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent qui ont circulé. Mais après, évidemment, il faut. C'est pour ça que la CARICOM a poussé les revendications, elle les a formalisées devant la Cour internationale de justice d'abord, mais c'est compliqué puisqu'il s'agit de justice restaurative et pas de justice pénale. Mais le déploiement de 10 points de la charte essaye de décliner dans leurs différents domaines et dans leurs différentes complexités le travail de la restauration et de la réparation. Et il est colossal puisqu'en fait il s'agit c'est 500 ans quand même, donc c'est beaucoup de traumatismes et d'injustices et de discriminations qui ont été passées de génération en génération et qui continuent à être criantes dans les sociétés européennes actuelles, en fait.
Mamoula Soumaoro.
Oui, alors il y a deux exemples qui me viennent en tête à ce sujet. Je pense à l'exemple kényan, donc lors de la guerre d'indépendance dans les années 50, donc le Kenya, qui était anciennement une colonie britannique, qui a mené par ceux qui s'appelaient les Mao-Mao, à partir de 1952 jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963, ont reçu les survivants de Mao-Mao ont reçu en 2013 une compensation financière de l'ordre de, je crois, 3000 livres pour à peu près, 2500 personnes, en reconnaissance des exactions qui avaient été commises par l'armée britannique. Est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez? Mais en tout cas, ça a été une grande victoire pour ces descendants de la lutte anticoloniale à l'époque. Et je pense également au cas états-unien. À la fin de la guerre de Sécession, il y a eu un projet d'indemnisation des personnes anciennement réduites en esclavage qui aurait consisté en l'octroi de 40 arpents de terre, une mule et $50 pour ces personnes qui avaient été réduites en esclavage. Et c'est une idée qui a été portée notamment par ceux qu'on appelait les radicaux républicains, puisque c'est le Parti républicain qui est responsable de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et cette idée n'est jamais arrivée à son terme, et ça a été abandonné. Mais c'est quelque chose qui est resté dans l'imaginaire africain-américain, cette idée que les biens, les terres, les ressources, les richesses, auraient pu être partagées et auraient pu réglementer ou auraient pu nuancer les rapports de force socio-économiques à l'époque. C'est-à-dire que le moment de l'abolition aurait également pu être un moment où on réinventait, où on remettait à niveau, où on rendait justice, peut-être où on rendait plus juste ces relations économiques à l'intérieur des sociétés dans lesquelles ces institutions existaient. Donc la question des réparations, elle pose aussi la question de la remise à niveau, la question vraiment fondamentalement de la justice quant au rapport entre ces territoires et les anciennes puissances coloniales.
L'exemple du Kenya que vous mobilisez, il pose la question de la faisabilité de ces réparations, peut-être aussi parce que ce que disent aujourd'hui, quand on voit les sommes qui circulent à plusieurs centaines de milliards de dollars, c'est de se dire que ce n'est pas possible, que les économies européennes n'y survivraient pas.
Oui, mais je pense que c'est vrai que c'est un point important, mais on pourrait également se demander à quel point ces économies européennes, ou jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour continuer à survivre ? Et comment ont-elles survécu ? Est-ce que la survie de ces économies, de l'ordre économique mis en place, est-ce qu'elle ne peut reposer que sur des inégalités et des iniquités fondamentales ? Ce que demande ce qu'ont en commun tous les mouvements de réparation, quel que soit le pays desquels ils émergent, c'est de repenser le rapport économique, de repenser cette organisation économique. N'est-il possible d'exister que par l'écrasement de certains territoires par d'autres territoires? Donc c'est vraiment la question de la justice, la question de l'égalité, et l'égalité notamment économique. Donc les économies européennes ne survivraient pas, c'est aussi refuser un autre agencement mondial.
Le Premier ministre Keir Starmer, à l'occasion du sommet du Commonwealth aux îles Samoa, était justement sommé de répondre à ces demandes de réparation financière. On l'écoute.
Il faut être clair et bien dire que le trafic d'esclaves était quelque chose d'odieux. C'est très important de rappeler cela avant toute chose, car bien sûr, c'est très important pour beaucoup de pays du Commonwealth qui sont réunis ici. Une fois ce constat posé, la question qu'il faut se poser est « Où voulons-nous aller ?» Et ma position, c'est que nous devons désormais nous tourner vers l'avenir, que nous devons nous concentrer sur les défis actuels qui lient tous les pays représentés dans cette arène. Les discussions que j'ai déjà eues et que j'ai en ce moment tournent tout autour du défi de l'adaptation au changement climatique et aussi la manière dont on intensifie le commerce entre nos pays.
Proposer de regarder vers l'avenir en réponse à une demande de réparation du passé, est-ce que c'est une manière diplomatique de poser une fin de non-recevoir, Fabienne Viala ?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, si on déconstruit un petit peu, c'est l'argument, Cameron avait dit ça avant, même en France, c'est aussi, ce sont des idées qui ont circulé, de dire que oui, bon, on est bien désolé que ça ait eu lieu dans le passé, mais c'est dans le passé, regardons de l'avant. En fait, si on décortique un peu plus, je rebondirai sur ce que disait Maboula Soumarou juste avant, et il s'agit, la vraie question, c'est quel monde voulons-nous construire et à quel type de relation voulons-nous participer entre les humains? Comment voulons-nous vivre bien ou vivre mieux? Et la question du réchauffement climatique, par exemple, elle me paraît extrêmement hypocrite, parce que si on regarde, il y a beaucoup de travaux maintenant qui démontrent que les traites d'esclavage, cette période des grands marchands, ont mis ensemble l'exploitation des humains et de la nature. La déforestation des espaces caribéens a été nécessaire de manière massive pour pouvoir planter la canne à sucre et pour pouvoir y faire de la monoculture. La crise climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, son origine vient d'une narration qui a commencé avec les esclavages. C'est-à-dire que la réparation, et d'ailleurs le MIR que présentait Maboula juste avant, les réparations contre les dommages causés par le chlordécone font partie de leur demande, à côte à côte avec les réparations pour les dommages subis par l'esclavage. Donc c'est un petit peu facile, c'est un tour de passe-passe assez facile, très facile à médiatiser pour une population globale qui n'est pas bien informée. Un sondage de mars 2025 en Angleterre démontrait qu'il y a encore un peu plus de 80% des Britanniques qui méconnaissent totalement le fait que l'Angleterre ait été impliquée pendant plus de 300 ans dans les traites d'esclavage transatlantique. Donc il faut peut-être regarder les choses du point de vue de l'investissement, et effectivement ce que demandent par exemple tous les mouvements de réparation, il ne s'agit pas non plus de mettre tout l'argent sur la table en 5 minutes, il faudrait déjà commencer par vouloir faire des choses. Et quand on regarde ne serait-ce que la charte en 10 points, ce sont des phénomènes d'investissement. Donc investir dans des nouvelles institutions culturelles, des nouvelles formations, par exemple, en Angleterre récemment, il y a quelques universités, l'université de Glasgow notamment, qui ouvrent des doctorats à des candidats qui seraient d'ascendance ou d'héritage caribéen, black British. Donc il y a toute une palette d'engagement de justice restaurative qui pourrait véritablement bénéficier d'une nouvelle forme de cohabitation de société, qui serait pas du tout, qui va pas couler l'économie, mais qui au contraire va la réorienter vers des zones qui seraient, et je rebondis sur ce que disait Maboula, qui seraient plus égalitaires. Et la vraie question, c'est de savoir à quel système on veut participer ou non. Et manifestement, c'est quelque chose qui est un petit peu bloqué du côté des gouvernants. Voilà.
Vous évoquez l'université de Glasgow en Écosse. En préparant cette émission, j'ai découvert qu'en 2018, l'université avait publié une étude qu'elle avait menée sur sa propre institution, et elle avait établi qu'elle avait bénéficié en tant qu'université de 200 millions de livres sterling en lien avec le système colonial et esclavagiste. Un accord pour une restitution de 20 millions à l'université de West Indies en Jamaïque a été mis en place, ainsi que des programmes de recherche. Qu'est-ce que ça nous dit des processus de réparation qui peuvent exister à des niveaux infra-étatiques, face notamment au refus des dirigeants d'aborder la question, Maboula Soumaoro?
Je pense que l'exemple que vous venez de donner pointe vers les possibilités, en vérité. Là, vous avez parlé de l'université de Glasgow qui a mené ses propres recherches, qui s'est aperçu que, enfin, je veux dire, c'était un peu Il fallait mener des recherches, mais beaucoup d'universités ont été investies, ont bénéficié de manière directe ou indirecte. Le même travail a été fait par un historien aux États-Unis qui a étudié ce qu'on appelle la Ivy League, donc les plus anciennes, les plus prestigieuses, les plus riches des universités aux États-Unis, et qui a montré très clairement les liens entre esclavage et le fondement, l'établissement de ces institutions de l'enseignement supérieur. Donc il suffit de faire, il suffit de regarder, il suffit d'être honnête. Mais je voulais quand même ajouter quelques mots sur la question climatique qui est instrumentalisée donc par le gouvernement britannique que vous avez cité pour faire une sorte d'association très étrange entre la question climatique et l'urgence climatique actuelle qui s'opposerait à un passé révolu et qui n'aurait aucune conséquence sur le présent. Alors que justement, comme Fabienne Viala l'a mentionné, la question climatique est étroitement liée au développement coloniaux de ce passé. Et donc, une zone, une région comme la Caraïbe est une région particulièrement fragilisée. On attend tous la montée des eaux de la Caraïbe. La Caraïbe est vouée à disparaître. La question de la déforestation, la question de l'agriculture et ce qui a été fait et défait pour maximiser l'industrie agriculturelle, pardon. Voilà, ça, ce sont des sujets qui datent de la période coloniale et qui, dans le champ français, ont notamment été étudiés par Malcolm Ferdinand, qui est chercheur au CNRS. Donc, le chlordécone ou d'autres choses, ce sont vraiment des sujets coloniaux dont les conséquences impactent le présent. Donc, faire une rupture comme ça entre une sorte de passé qui serait révolu et complètement dissocié de ce qui se passe dans le présent et de ce qui va modeler notre avenir est tout à fait malhonnête. En fait, la question de cette histoire coloniale, la question de cette histoire esclavagiste et la question aujourd'hui des réparations, elle nous amène à constater que ce passé n'est pas révolu, que ce passé continue d'influer sur le présent. Et donc on a des, on va dire, des problèmes chronologiques à régler de manière à pouvoir véritablement avancer ensemble.
On le disait il y a quelques instants en écoutant Keir Starmer que pour le moment le Royaume britannique oppose une fin de non-recevoir aux demandes qui lui sont faites depuis les pays de la Caraïbe. En 2023, l'universitaire jamaïcaine Rosalea Hamilton a adressé une lettre à Charles III. On en écoute un extrait.
Une partie de la lettre disait « Nous ne voyons aucune raison de célébrer les 70 ans de l'accession au trône britannique de votre grand-mère, car son leadership et celui de ses prédécesseurs ont perpétué la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité en matière de droits humains. Au cours de son règne, votre grand-mère n'a rien fait pour réparer et expier les souffrances infligées à nos ancêtres, ni pendant son règne, ni pendant toute la période de la traite des Africains, de l'esclavage, du servage et de la colonisation par les Britanniques. »
Extrait d'une lettre de Rosalea Hamilton, Fabienne Viala. Est-ce qu'il y a un lien entre, d'un côté, la surdité des Britanniques face aux demandes de réparation et, de l'autre, les mouvements pro-républiques qu'on observe dans la Caraïbe, notamment à la Barbade et aussi en Jamaïque?
Alors, un lien, c'est un peu complexe. Je crois qu'on est face à des indépendances qui se sont faites petit à petit dans les territoires anglophones et qui, pour certaines, ont encore gardé une association avec la couronne britannique. Donc on est dans un discours qui essaye véritablement de trouver un interlocuteur pour que justice soit faite. Et c'est compliqué puisque dans le système anglais, on est face d'un côté à des politiciens en charge et de l'autre à un système monarchique plutôt d'apparat, on va dire, mais qui en même temps a une certaine visibilité. Donc c'est assez assez courant en fait, ça s'est encore produit en novembre 2025 quand le le Caribbean Reparation Committee est venu à Londres dans une visite historique mise en place par l'Institute of Commonwealth Studies, donc encore une fois le milieu universitaire, mais la commission pour les réparations a dû, devant le refus des uns, a dû se tourner et essayer à nouveau de faire une autre demande au roi Charles III, en lui demandant cette fois-ci de trouver un véritable conseil juridique, de s'informer en fait, de faire son travail de connaissance pour avoir des avocats qui lui expliqueraient, lui donneraient vraiment conseil sur deux questions. La mise en place d'une reconnaissance officielle dans la mémoire collective du fait que l'esclavage ait été un crime contre l'humanité, mais aussi la question du droit éthique, de la responsabilité éthique et morale de l'Angleterre contribuer à la réparation des dommages. Donc on est vraiment dans une logique de justice restaurative et pas de justice pénale, puisque au vu de la justice pénale, il y a évidemment prescription. C'est pour ça que les procès d'ailleurs à Fort-de-France, en Martinique, contre l'État français pour l'empoisonnement et l'intoxication au chlordécone et pour la réparation pour l'esclavage ont été déboutés systématiquement au nom justement de la prescription et du droit pénal. Donc on peut pas statuer sur cette question-là. La justice pénale n'est pas équipé pour ça, et donc il faut un programme qui appartient une autre discipline du droit, qui est la justice restaurative. Et là, pour le coup, et effectivement, c'est là où la danse des affiliations politiques devient un petit peu plus complexe, puisqu'il faut que les pays de la Caraïbe se mettent d'accord pour savoir à quelle institution et à quel interlocuteur avoir affaire pour pouvoir faire avancer les choses, en fait.
Le temps file, je voudrais aborder aussi une question, Maboula Soumarou, il ne reste plus beaucoup de temps, mais la Caraïbe se mobilise, elle est en lien avec l'Union africaine sur ces questions. En 2019, l'Union africaine a officiellement apporté son soutien à toutes les démarches qui sont entreprises par la Caraïbe. Quelle est l'importance symbolique et diplomatique aussi de ce soutien? Comment tout cela s'inscrit aussi dans une dynamique néo-panafricaine, peut-être?
Oui, c'est tout à fait ça, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas panafricaine, et c'est le fruit d'un militantisme mené depuis des décennies, ou peut-être plus d'un siècle maintenant, par ce qu'on appelle la diaspora africaine, c'est-à-dire les personnes d'ascendance africaine proche et lointaine qui sont établies en dehors du continent, et qui sont établies en dehors du continent, principalement du fait de la traite négrière. Donc depuis 2003, la diaspora constitue la sixième région de l'Union africaine, c'est-à-dire que l'Union africaine, en tant qu'instance politique, reconnaît une solidarité, une affiliation, une ascendance, en tout cas un lien avec les personnes qui ont été déportées du continent africain dans le cadre de la traite. Donc, dans ce sens, depuis 2019, le soutien apporté par l'Union africaine aux demandes qui émanent des pays de la Caraïbe et du CARICOM en général, mais je pense que toutes les initiatives, dont le MIR, ou dans toutes les zones linguistiques, c'est-à-dire qui descendent d'une histoire coloniale nationale, seront prises en charge par l'Union africaine. C'est-à-dire la reconnaissance d'un lien indéfectible, en tout cas idéalement, entre les personnes qui ont dû de manière forcée quitter le continent et le continent aujourd'hui tel qu'il existe. Donc une reconnaissance de la mutualité des intérêts, une reconnaissance d'une histoire commune et une histoire, une reconnaissance d'un lien qu'il faut maintenir.
Y compris sur la question des retours, parce que dans la charte en 10 points de la CARICOM, oui, il y a des dispositions, enfin il y a une demande qui est faite de faciliter le retour. Donc ça, c'est des descendants, oui, vers des pays africains. Donc ça, c'est quelque chose qui est en discussion de manière très concrète avec l'Union africaine.
Alors, je pourrais pas m'avancer sur les discussions concrètes de l'Union africaine, mais la question du retour est une question très ancienne dans ce qu'on appelle la diaspora. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple de la fondation du Liberia au 19e siècle, si vous prenez l'exemple donc du Liberia en lien avec les États-Unis, ou de la Sierra Leone, si on se penche dans l'histoire coloniale britannique, si on pense au mouvement Rastafari popularisé par Bob Marley, il y a cette question du territoire perdu, du foyer, de la terre-mère qu'on doit retrouver. Et donc, ces personnes qui ont été déplacées de force peuvent espérer retourner un jour dans un endroit qui les accueillerait et dont ils sont censés être originaires, justement parce qu'ils se sont retrouvés dans des environnements hostiles dans ce que les Européens ont appelé le Nouveau Monde.
Vous écoutez Culture Monde, dernier épisode de notre série Réparation coloniale, une quête mondiale. Aujourd'hui, la région de la Caraïbe qui se mobilise pour demander justice. Et tout de suite, après la musique, on évoque le cas de la dette haïtienne.
In a bondage, this little island in a colonial bondage. My island, oh yes, it's in a bondage. Ooh. My island, I am a fab them in a hostage. No sell off it, we little island. This is where we born, this is where we come from. Preserve reggae music, protect the Rasta man. This is where we born, this is where we come from. Whoa, yes, I, yeah, yeah, I love my Jamaica. And we pay that price under the English rule. And they rape and they rob and them thief from we. Then they take all the profits and leave from we. Oh, dreadnoughts. These are days of judgment of come. These are days of the living in the dark.
La musique est un message et chacune de mes chansons a un but, expliquait le chanteur et musicien Kezmandi, né en 1991 à Kingston, dont la musique s'inscrit dans la tradition rastafari jamaïcaine. Dernier épisode de notre série consacrée aux réparations coloniales, direction à présent Haïti.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous réclamons au moins la valeur capitalisée pour l'année 2003, soit 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars US.
Extrait d'une archivina de 2003 où le président de la République d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, demandait le remboursement de la rançon payée par Haïti à la France après son indépendance. Une somme colossale de 150 millions de francs or exigée en 1825 sous la menace militaire et ce, afin de dédommager les anciens planteurs esclavagistes. Bonjour Jean-Marie Théoda.
Bonjour.
Bienvenue, merci de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous êtes directeur du département de géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de l'article Haïti 1825-2025, géopolitique de la dette. Et je mentionne aussi votre dernier ouvrage, Haïti mon amour, les raisons de la colère. C'est paru aux éditions Hémisphère. Jean-Marie Théoda, quand en 2003, Jean-Bertrand Aristide réclame le remboursement de cette rançon et annonce un montant, qu'est-ce que ça représente à ce moment-là? Comment ce moment est-il vécu en Haïti et en France?
Alors, c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler un éclair d'un ciel sans nuages, parce qu'à l'époque, peu de spécialistes, des historiens étaient véritablement au courant de l'actualité rançon de l'indépendance, comme nous le disons en Haïti. Et le président Aristide, en 2003, était en difficulté sur son pouvoir. Il était donc fâché avec la France, les États-Unis, qui étaient les mentors qui avaient accompagné son retour au pouvoir. Et c'est par une sorte de pied de nez à la France que le président Aristide a fait cette déclaration tonitruante qui a véritablement jeté un pavé dans la mare.
Ce qu'on appelle aujourd'hui dette doit en fait s'appeler rançon. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a appelé en Haïti à l'époque. Que signifie ce terme? pourquoi c'est ce terme-là, rançon, qui doit être employé pour qualifier l'argent que Haïti a dû verser à la France?
Parce que c'est de l'argent qui a été extorqué. Une dette, normalement, définit un contrat entre deux personnes consentantes. Haïti n'était pas consentant.
Alors la liaison...
Le gouvernement ne peut pas être obtenu sous la menace de la violence. Et dans le cas de Haïti, c'est avec une escadre, avec une menace d'anéantir la capitale, que le baron de Mako s'est présenté à Port-au-Prince en juillet 1825, en enjoignant les Haïtiens de signer, de contresigner l'édit par lequel le roi Charles X octroyait gracieusement l'indépendance aux Haïtiens, mais ce n'était pas du tout gracieusement parce que c'était assorti de cette rançon, donc cette obligation de dédommager les anciens propriétaires d'esclaves.
Haïti s'endette auprès notamment de banques françaises pour payer cette somme. Et le service de la dette, Jean-Marie Théoda, il sera payé jusqu'en 1952. J'ai un peu la même question que tout à l'heure à nos invités sur les dédommagements qui ont été versés aux esclavagistes dans la Caraïbe jusqu'en 2015. Comment expliquer que le système perdure jusqu'en 1952, que personne n'ait pu le remettre en cause avant cela?
Je pense qu'il est encore plus paradoxal de constater que nous avons attendu si tard pour que la question des réparations devienne, un lieu commun. En fait, d'autres temps, d'autres mœurs. Nous parlons du 19e siècle, à l'époque où les puissances européennes sont au sommet de leur puissance, de leur hégémonie sur le reste du monde. Les États-Unis, en 1825, ne sont encore un petit État parmi d'autres, avec certes un bel avenir, comme l'a décrit Tocqueville dans de la démocratie en Amérique, mais la France et le Royaume-Uni dominent le reste du monde par leur marine, par leur technique, par leur science, par leur littérature. C'est-à-dire, nous parlons des puissances hégémoniques de l'époque, et tout ce qui était possible de faire, ces puissances le faisaient sans véritablement être limitées dans leur hubris par ni le droit international, ni par la conscience qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, le paradoxe de la situation, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous jugeons ce comportement avec une éthique qui est totalement différente. Nous ne voyons plus les Haïtiens de France, vus de France comme des êtres inférieurs. Nous ne voyons plus les Noirs avec les a priori racistes de cette époque. Donc, ce sont véritablement, et c'est pour cela que l'on parlait tout à l'heure de justice réparatrice, c'est-à-dire d'une nouvelle forme d'appréhension des dommages du passé, de façon à ne pas mettre ça strictement sur un plan pénal, mais considérer que puisque nous avons un passé commun et que ce passé se traduit aujourd'hui par un criant déséquilibre entre d'un côté des sociétés opulentes, je pense à la France, je pense au Royaume-Uni, je pense à la Hollande, et de l'autre des pays qui croulent sous la misère, un pays tel que Haïti peut être considéré comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, et le lien entre les deux est un paradoxe qui demande que nous nous posions des questions. Ce n'est pas parce que les uns sont inférieurs qu'ils sont pauvres et que les autres sont supérieurs, qu'ils sont riches, c'est que dans l'intervalle, il y a eu un lien toxique, qui est le lien de l'esclavage, qui est le lien de la colonisation. Notre époque regarde cela avec un souci de réparation qui nous honore, et c'est pour cela qu'il nous faut envisager une nouvelle approche qui ne doit pas être de l'ordre de l'aide publique au développement. Ce n'est pas quelques miettes que nous réclamons à la France pour réparer ce passé, et ce n'est pas non plus par une sorte de prurite revanchard qui ferait que nous voudrions absolument l'Europe, c'est tout simplement que nous ne pouvons plus assister aujourd'hui à l'effondrement de sociétés qui ont subi l'esclavage sans considérer qu'il y a un lien de cause à effet entre ce crime contre l'humanité et la misère dans laquelle se trouvent des populations au Brésil, en Haïti, à Cuba et partout ailleurs dans le monde. Mais la spécificité d'Haïti dans ce panorama, c'est que, en plus des réparations pour cause d'esclavage et de colonisation, les Haïtiens demandent la restitution. C'est le sens des 23 milliards prononcés par le président Aristide. C'est-à-dire, il n'est pas normal que le vainqueur se retrouve à verser une rançon aux vaincus. Les Haïtiens ont vaincu leur liberté, ont gagné leur liberté sur le champ de bataille en 1803. On a conquis notre indépendance à la suite d'une guerre qui a coûté plus de 300 000 morts. Et on se retrouve 20 ans plus tard à devoir monnayer pour pouvoir accéder au statut de plein droit. Donc c'est la restitution de cette somme indue qui est la spécificité de la requête haïtienne.
Cette histoire-là, elle est documentée depuis longtemps, Jean-Marie Théoda, on ne la découvre pas. Et pourtant, en 2025, à l'occasion du bicentenaire donc de la reconnaissance d'Haïti et de la contraction de cette dette, et le président Macron a annoncé la création d'une commission d'historiens français et haïtiens. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir en matière historiographique? Quel est le besoin, quel est le sens aussi peut-être plutôt politique de cette commission?
Je pense que l'intérêt d'une pareille commission. Allô?
Oui, nous vous entendons, allez-y.
Le principal intérêt d'une pareille commission.
Ah, la liaison se dégrade. On est en train de vous perdre. Je vais quand même vous redonner la parole,
C'est une commission.
Allez-y.
Cette commission a été décidée donc à l'initiative de la France. Le 17 avril 2025, mais en concertation avec le pouvoir haïtien. C'est une commission mixte formée de spécialistes, tous bien capés pour faire le travail, mais comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas de grand secret autour de la motivation, autour de la quantité d'argent qui a été versée. Nous pouvons même retracer les destinataires. Donc, il y a, un champ d'investigation qui a été largement débroussaillé par les travaux de Madame Busti-Gaillard, qui représente d'ailleurs la partie haïtienne au sein de cette commission dont elle est la présidente. Mais maintenant, le rôle de cette commission, si je comprends bien la lettre de mission, c'est de faire des propositions de réparation mémorielle, des propositions éditoriales, des propositions de recherche qui, bien entendu, ont pour principale vertu d'apaiser le climat et l'atmosphère des relations entre la France et Haïti, mais le cœur, nucléaire de la problématique, qui est la question donc de la restitution de l'argent, ne peut pas être abordé par une simple commission. Je pense que c'est de la responsabilité des ministres des Affaires étrangères, c'est de la responsabilité, si vous voulez, de l'État de participer à de telles négociations, parce que c'est un véritable bras de fer qui s'initie ici, et Haïti ne peut pas se présenter en position de faiblesse. Et comme nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre à un État fort capable de défendre légitimement nos intérêts, parce que le pouvoir n'a pas été élu et il n'est pas investi dans un tel mandat, je pense que c'est quelque chose qui se fera à l'avenir.
Merci. Merci beaucoup Jean-Marie Théoda pour cet éclairage sur Haïti. Je rappelle votre dernier ouvrage, Haïti, mon amour, les raisons de la colère, et puis votre article pour aller plus loin sur cette question de la dette. Haïti 1825-2025, géopolitique de la dette, sur le site de l'IFRI. Merci beaucoup à nos deux intervenantes de la première partie. Maboula Soumaoro, je renvoie vers votre ouvrage, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire. C'est paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Fabienne Viala d'avoir été en lien avec nous depuis l'université de Warwick. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et une histoire, Catherine, ce matin a retenu votre attention, celle d'une femme russe qui recrute des étrangers pour combattre en Ukraine.
Cette histoire révèle et confirme deux choses. L'armée russe cherche à recruter des combattants à tout prix, jusqu'au Yémen, au Népal, en Syrie, pour compenser ses lourdes pertes en Ukraine. L'année 2025 a été la plus sanglante, souligne Mediazona, avec entre 20 000 et 25 000 soldats russes tués par mois, précise Fox News, Business Insider et le site d'information ukrainien Militarny, d'après les données de l'OTAN, ce qui fait plus d'1 million de soldats russes tués ou blessés depuis 2022. Et l'invasion de l'Ukraine à grande échelle Rochelle, indique la BBC et le Guardian. Un carnage synonyme de business très lucratif pour des acteurs locaux qui fournissent de la chair à canon au Kremlin. C'est ce qui ressort d'une enquête passionnante de près d'une heure de la BBC qui a remonté toute une filière de recrutement entre plusieurs pays et une femme russe notamment, Polina Alexandrovna Azarny, une ancienne prof aujourd'hui âgée de 40 ans. Avant la guerre, Polina gérait un groupe Facebook qui aidait des étudiants arabes à venir à Moscou. Depuis, elle s'appuie sur ce groupe et sur une chaîne Telegram à 21 000 abonnés pour faire sa pub et pour convaincre de jeunes yéménites, égyptiens, irakiens, syriens de s'engager dans l'armée russe avec la promesse de gagner beaucoup d'argent et d'obtenir la citoyenneté, détaille BBC Investigation. Si les jeunes recrues lui versent 3 000 dollars, pas besoin de combattre, prétend Polina. Elle pourrait également toucher entre 300 et 4 000 dollars de la part des autorités russes pour chaque enrôlement. C'est ce qu'affirme un témoin et une spécialiste de l'Institut de la guerre interrogée par la BBC. Mais ces recrues étrangères déchantent vite, comme le confie Omar, un Syrien de 27 ans qui travaillait dans le BTP. Avant d'aller en Russie, il n'était pas censé combattre, dit-il dans une série de messages vocaux et vidéos envoyés à un journaliste syrien exilé en France et consulté par la BBC. Omar se retrouve pourtant aujourd'hui sur le front ukrainien, piégé sous les bombes et sous les drones, piégé par Polina aussi, qui a brûlé son passeport syrien. Je filme cette vidéo pour vous montrer où j'en suis. Je dois marcher 16 km par ce temps, montre Omar alors qu'il peine à avancer dans une forêt au sol enneigé et recouvert de branches. On s'est fait avoir, regrette Omar. On ne connaît pas la langue, on ne comprend rien à ce qu'ils nous disent en russe. J'en peux plus, ça fait un an que je combats ici, sans un seul jour de congé. C'est très dangereux. Quand quelqu'un meurt, je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Ils le mettent dans un sac poubelle et l'abandonnent près d'un arbre. J'ai refusé d'aller au front en Ukraine. Mais on m'a répondu qu'on me tuerait si je n'y allais pas ou qu'on me jetterait en prison pour 15 ans. Mon contrat se termine dans un mois. S'il le renouvelle, je suis fichu, se désole Omar. Le jeune Syrien maudit aussi Polina, cette femme russe qui l'a recrutée, lui promettant qu'il n'irait pas au combat. Cette femme est une arnaqueuse et une menteuse, dit-il. Sur son groupe Telegram, Polina indique, elle, que le contrat ne dure qu'un an. Mais ce qu'elle omet de mentionner, précise la BBC, c'est qu'un décret russe datant de septembre 2022 oblige tous les soldats à servir jusqu'à la fin de la guerre, ce qui signifie que leur contrat est renouvelé automatiquement.
Et au moins 20 000 étrangers se seraient enrôlés ou auraient été recrutés sous de faux prétextes par la Russie.
Venant de pays comme Cuba, le Népal et la Corée du Nord, nous en avons déjà parlé ici même avec un salaire mensuel équivalent à 2500 dollars, une prime d'engagement de 5000 dollars, des sommes dont ces étrangers ne pouvaient même pas rêver dans leur pays d'origine, note la BBC. Un avocat basé à Amsterdam suit, lui, le parcours de centaines de Yéménites attirés par des réseaux vers la Russie. Certains pensaient trouver un travail dans la restauration, mais ils ont fini sur le front en Ukraine, racontent leurs proches. Et BBC Investigation a pu retrouver la trace de deux Yéménites faits prisonniers aujourd'hui en Ukraine. Ils regrettent d'être allés dans un autre pays pour se battre pour quoi, demande l'un d'entre eux. Des regrets que Polina, la recruteuse russe, refuse d'entendre. À tous ceux qui prétendent que j'envoie des gens à la mort, merci pour la pub, ironise Polina dans une vidéo d'octobre 2024 au langage assez fleuri. Vous saviez tous que vous alliez combattre, alors de quoi vous plaignez-vous, s'emporte-t-elle? Vous pensiez pouvoir tromper la Russie, le ministère de la Défense? Vous pensiez pouvoir obtenir de l'argent et un passeport russe sans rien faire? C'est pas comme ça que ça se passe, rien n'est gratuit. Contactée par la BBC, Polina a fini par décliner toute demande d'interview et de déclarer « Les Arabes peuvent se mettre leurs accusations là où je pense ». Autre signe de la brutalisation de la machine de guerre russe, insatiable, souligne le New York Times, 6000 plaintes confidentielles ont été déposées par les troupes russes sur le front en Ukraine pour mauvais traitement par leur propre hiérarchie.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale de Guillaume Erner. Et demain, c'est l'émission Actualité de Culture Monde. Dans le retour de terrain, nous recevrons la journaliste Karima Chabour qui a enquêté sur la politique d'influence de la Turquie en Afrique. Et la table ronde sera consacrée à la situation en Ukraine. Dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.